RCF.
Je m'appelle Olivier Bouillet, je suis un vieux bonhomme, retraité d'une longue carrière dans l'industrie, en France et à l'international. Je suis père de 3 enfants, grand-père de 8 petits-enfants. Je suis actuellement le référent à l'écologie intégrale du diocèse de Grenoble-Vienne.
Témoin quand la foi se raconte.
En 2024, en France, les 2/3 des diocèses catholiques ont un référent à l'écologie intégrale ou une équipe chargée de porter la préoccupation des enjeux écologiques et de favoriser l'engagement en la matière. Certains, comme Olivier, sont engagés de longue date sur les questions environnementales, mais pour d'autres, c'est plus récent. Et leur prise de conscience s'est faite dans le sillage de l'encyclique écologique du pape François, Laudato Si. Mais pour celles et ceux qui avaient de longue date une conscience et un engagement écologique, Laudato Si est venu interroger le lien entre foi et écologie. C'est ce qui s'est passé pour Olivier Bouillet.
Alors je suis le référent depuis 4 ans. Puis auparavant, je faisais partie de l'équipe écologie intégrale du diocèse qui avait été créée quelques années après Laudato Si, à l'appel de notre vicaire général. Et puis encore avant, j'étais cadre dans l'industrie, j'ai fait une longue carrière dans une multinationale, avec une sensibilité écologique qui s'est structurée progressivement au fil des ans.
Cette sensibilité écologique, elle venait d'où? Est-ce que vous repérez un peu des points d'ancrage qui font que petit à petit ça s'est structuré?
Je crois que le point d'ancrage, ce sont mes origines terriennes. Mes grands-parents étaient agriculteurs. Mon père, fils aîné d'une veuve, donc qui a géré l'exploitation agricole de la famille. Et ça, je pense que ça l'a beaucoup marqué. Et ça a beaucoup marqué l'éducation de ses enfants, qui étaient proches de la terre, proches des réalités, de faire durer les choses de leurs mains. Moi, j'ai appris ça depuis toujours. Faire attention aux ressources. Et c'est peut-être par les ressources que j'y suis venu. Après ça, dans ma carrière industrielle, j'ai eu des fonctions techniques de conception de produits. On faisait toujours attention à mettre beaucoup, beaucoup de matière grise pour limiter la matière première qu'on utilisait. Parce que la matière première, on allait l'utiliser, ça allait être multiplié par des milliers, des centaines de milliers de fois. Donc il fallait faire attention d'essayer d'économiser à chaque fois 1 gramme de matière. Ça justifiait 3 jours de réflexion. Donc cette rareté des ressources, et puis elle est venue se matérialiser déjà dès la fin des années 90, on commençait à être conscient des pénuries de matières premières qui allaient commencer à affecter le monde.
Alors c'est étonnant de vous entendre dire ça, parce que on a l'impression que c'est une découverte assez récente en fait.
Non, vous voyez, dans l'industrie où j'étais, j'ai un souvenir notamment de conception d'un produit qui utilisait de l'argent, du métal argent. Et on essayait d'optimiser au maximum son utilisation, non pas à cause du prix, parce qu'on parlait de milligrammes, mais parce qu'on savait déjà quelque part que dans 20 ans, dans 30 ans, il y aurait, au rythme où on allait, il n'y aurait plus d'argent sur Terre. Donc on le savait déjà, ça. C'était les années 90.
Donc à ce moment-là, vous avez cette conscience-là. Qu'est-ce que vous en faites dans ces années 90-là?
Ça renforce mon défaut qui était de toujours économiser et économiser la matière. Et je pense que c'est ça qui m'a amené à cet engagement écologique, à arriver à l'âge de la retraite, une 15aine d'années plus tard. Ça m'a paru naturel de répondre à l'appel du diocèse. À l'époque, nous étions avec mon épouse un couple très engagé dans des activités de couple, style alpha couple, préparation au mariage, j'en passe, et des meilleurs. Et quand il y a eu un appel, quelques années après Laudato aussi, à créer une équipe dans le diocèse de gens qui voulaient voir ce qu'on pouvait faire pour l'écologie, ça m'a paru naturel de répondre à l'appel.
Et ça veut dire qu'à ce moment-là, il y avait déjà un lien entre l'écologie qui vous préoccupait et votre foi?
C'est Laudato aussi probablement qui a commencé à le faire, ce lien.
Avant, c'était 2 choses parallèles qui cohabitaient dans votre vie?
Oui, j'avais jamais formalisé comme ça le fait que économiser la terre, économiser la ressource, c'était en lien complètement direct avec le soin de la création que le Père nous a confié. C'est Laudato Si, et puis c'est progressivement, donc c'est l'engagement, Laudato Si, mon engagement, qui était au début un engagement comme membre de l'équipe, puis par les hasards de la vie ont fait que l'équipe ayant évolué, on m'a proposé de prendre le poste de responsable de l'équipe écologie intégrale du diocèse. Et il y a eu une première interview de radio, sur RCF d'ailleurs, dans laquelle on m'a posé la question, qu'est-ce que l'Église vient faire dans cette galère ? Et donc je suis retourné sous ma tente, heureusement qu'on m'avait prévenu, pour réfléchir, articuler ces questions. Et c'est ça qui m'a fait réfléchir.
Alors qu'est-ce que vous avez répondu à cette fameuse question ?
Alors en ingénieur très synthétique, j'ai répondu en leur disant, il y a deux choses. Il y a l'Ancien et le Nouveau Testament. Et dans l'Ancien Testament, au chapitre 1 de la Genèse, que j'ai beaucoup travaillé depuis, mais à l'époque je le connaissais à peine, Dieu nous confie sa création. S'il nous confie cette superbe chose, c'est sans doute pas pour qu'on la bousille. Il ne devrait pas être très heureux et m'accorder le salut éternel si je contribue à bousiller la création qu'il a faite pour nous et pour notre bonheur. C'est un peu simpliste comme théologie, je vous l'accorde. Et puis dans le Nouveau Testament, il nous a envoyé son Fils qui nous dit « Aimez-vous les uns les autres ». Est-ce que c'est aimer mes petits-enfants et les enfants de mes petits-enfants, j'espère qu'ils pourront en avoir, que de leur laisser un cadre de vie complètement dégradé ? Non. Donc une deuxième raison qui fait le lien entre ces deux textes bibliques et mon engagement écologique. Et depuis, je n'ai fait que creuser et affiner un peu plus et préciser un peu plus tous ces liens. Et maintenant, j'en suis intimement convaincu.
De là où d'être aussi, puisque vous disiez que finalement, ce qui a un peu fait que vous avez accepté, c'était aussi ça. Enfin, il y avait cette lecture de là où d'être aussi. Qu'est-ce que vous retenez de ce texte-là ? En quoi il vous paraît le plus marquant ? Enfin, qu'est-ce que vous en retenez le plus ?
Bon, je ne vais pas être banal en vous disant tout est lié. Mais ce qui a le plus marquant, c'est effectivement qu'il vient lier, et ce n'était pas évident à la première lecture, qu'il vient lier toute notre crise environnementale et la crise sociale. Il m'a fallu du temps pour vraiment l'intégrer, le comprendre et voir que c'était finalement la même cause qui est notre comportement de prédateur soit des ressources de la terre, soit des ressources qui sont les hommes qui sont à côté de nous, pour notre intérêt égoïste finalement. Et que c'était cette attitude-là qu'il fallait qu'on combatte, parce que c'était elle la cause fondamentale de l'ensemble des crises. Et ça, Laudato Si' l'a très bien dit, mais il a fallu du temps et au moins trois cycles d'études de Laudato Si' pour l'intégrer et arriver à le synthétiser comme je viens de vous le faire.
2050, 2100, passe si lentement. Laissez le monde navrant aux arrière-petits-enfants.
2100, 2102, de mieux en mieux. Ouvrir un peu son cœur, alors à tout à l'heure, à tout à l'heure. Tout à l'heure. Comme on fuit le ciel, la mer, le soleil, le désert qui nous pousse au fond de la bouteille.
La terre se vide, les océans s'éveillent. Est-ce que c'est pire après ou bien c'est pareil?
Un héritage peuplé de remords, un peu morveux d'avoir pillé le trésor.
Te laisse le vent, l'amour aussi,
le chant d'un oiseau qui fait taire la pluie. 2050, 2100, passe si lentement, laissez le monde navrant aux arrière-petits-enfants.
2100, 2102, de mieux en mieux, ouvrir un peu son cœur, alors à tout à l'heure, à tout à l'heure, tout à l'heure.
À quoi ressemblera le monde, mon enfant? 2050, 2060, 2100.
Remonte son rocher inlassablement, redessine le monde sur son toboggan.
Comme on rêve d'espace, de galaxie, on habite les étoiles peut-être à l'abri. Une page blanche dessinée nickel, de là-haut la terre. La terre est belle.
2050, 2100, passe pas si lentement. Laissez le monde avant aux arrière-petits-enfants.
Témoin, Anne Guerléau.
Dans le diocèse de Grenoble-Vienne, où Olivier Bouillet est référent à l'écologie intégrale, il existe autour de l'écologie une vraie dynamique qui s'est notamment appuyée sur le label Église verte et qui se traduit par des actions concrètes et impactantes. Par exemple, depuis plusieurs années, le diocèse désinvestit progressivement des énergies fossiles. Cette dynamique s'est construite dans la durée et avec une vraie méthode.
L'équipe a dû être créée en 2018 et puis petit à petit elle s'est étoffée. Et assez vite, il y avait dans l'équipe un membre qui est parti depuis, qui revenait d'un séjour de 40 ans aux États-Unis, qui était formaté par la façon de faire américaine en disant « il faut d'abord qu'on se fixe une mission, une vision, une vocation ». Donc comme on fait dans les grands groupes et comme j'avais fait. Et on l'a fait, et c'était très bien, parce que ça nous a fait réfléchir, de dire à quoi sert une équipe dans un diocèse. Est-ce qu'on veut agir? Est-ce qu'on veut contribuer à agir, etc. Et donc on s'est vraiment fixé comme mission de dire, certes, il faut que l'ensemble de la population du diocèse se mette en route dans le sens de Laudato si, mais c'est pas nous qui allons les bouger, le mouvement il doit se faire dans les paroisses, dans les communautés, au plus près du terrain. Et donc notre job, c'était d'outiller les paroisses, les communautés, avec tout ce qu'il fallait pour qu'elles puissent bouger. Donc de les former, faire susciter la vocation d'équipe dans les paroisses, et ensuite les outiller, leur donner des trucs, des astuces, des outils, etc.
Très concrètement, comment vous avez fait tout ça? Enfin, il fallait créer ces outils-là?
Alors on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Bon, dans l'équipe, il y avait un prêtre retraité exceptionnel, très dynamique, qui lui faisait des conférences. Bon, il connaissait tout le monde, il avait été vicaire général, etc. Et il faisait des conférences sur Laudato aussi. On a dit, bon, bah, très bien, on va se faire un petit catalogue d'actions. On vous propose, si vous voulez démarrer un truc, une démarche Église verte, il faut que je vous parle de l'outil label Église verte, si vous voulez démarrer une démarche Église verte, on peut commencer par une conférence. Allez, je reviens sur mon outil label Église verte. On a commencé par se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire dans les paroisses, et on a listé les choses. Et est arrivé l'outil label Église verte qu'on a découvert après coup, et on s'est dit, mais finalement cet outil, il couvre toutes les choses qu'on a listées. Donc ne réinventons pas l'eau chaude, on prend cet outil label Église verte et on va essayer de le promouvoir dans les paroisses. Donc un outil qui permet à une paroisse de se poser des questions, de se poser les bonnes questions sur son attitude vis-à-vis de l'écologie intégrale, et puis de choisir les réponses qu'elle veut y apporter.
Des questions aussi concrètes que le chauffage
Des questions, oui, le chauffage et le tri des déchets, ok, mais non. Les premières questions, c'est est-ce que dans notre liturgie, dans notre spiritualité, on regarde la création comme un don de Dieu? Est-ce qu'on respecte la création? Est-ce qu'on loue le Seigneur pour la création? Est-ce qu'on aime la... Bon. Est-ce que dans nos célébrations, on a des chants, on a des intentions de prière, etc. Donc ça, c'est un des volets. Il y a un deuxième volet, bien sûr, qui parlera du chauffage des églises. Non, il faut pas les chauffer, d'ailleurs, c'est inchauffable. De changement des ampoules par des LED, etc. Du tri des déchets. Oui, c'est l'écologie, entre guillemets, classique. Il y a un troisième volet qui concerne tous les terrains, parce que on en a, peut-être pas les églises en ville, mais bon nombre de congrégations ont beaucoup de terrains. Qu'est-ce qu'on fait de notre terre? Comment on traite la terre? Et là, c'est un impact très fort sur la biodiversité. On peut avoir un impact là-dessus. Et on sait souvent, quand on regarde, c'est pas très joli, ce qui se passe. Ensuite, notre communauté est-elle en lien avec la communauté des hommes? L'Église n'est pas hors sol, elle vit dans la communauté des hommes. Est-ce que on travaille avec des associations écologiques locales? Alors, on le sait, les valeurs des écolos, entre guillemets, étiquetées écolo-politiques et de l'Église sont pas forcément alignées, mais il y a quand même un tronc commun énorme. Est-ce que ce tronc commun énorme, on y travaille? Et c'est d'ailleurs dans cette partie-là du job qu'on s'est beaucoup rapproché d'associations de sensibilisation comme la fresque du climat, de Tonne, etc., dont on pourra parler plus tard si vous voulez. Et puis le quatrième volet, c'est le comportement individuel des paroissiens. Comment fait-on pour les aider à prendre conscience de tout ce qui est expliqué dans l'Audat aussi, de toutes ces crises liées, et de changer leur comportement. Donc vous voyez, le label Église verte, il fait se poser des questions aux communautés paroissiales sur tous ces domaines, sur tout cet horizon-là, à 360 degrés. Et puis ensuite, la communauté paroissiale, elle pourra décider, bon, ok, sur ce point-là et ce point-là, je ne suis pas terrible, je pense que je peux faire des choses, eh bien je mène une action, et puis on verra dans un an si on a réussi à avancer.
Donc si je comprends bien, ça a été au départ votre outil majeur, ce label Église verte. Est-ce que ça a bien répondu du côté des paroisses ?
Ça a été notre outil majeur, et surtout notre volonté, ça a été d'outiller pour que ça réponde du côté des paroisses. Au début, on a surtout cherché à sensibiliser les gens, à informer, à ce que les gens prennent conscience finalement. D'où l'utilisation d'outils comme la fresque du climat, d'où le fait de faire des conférences, d'aller faire des soirées en paroisse de lancement, de présentation de l'outil la belle Église verte, etc. Oui, ça a démarré, mais doucement. L'Église a beau être une ONG la plus puissante du monde, elle a quand même son inertie. Donc on a démarré avec si on mesure avec un indicateur de performance qui est le nombre de communautés qui sont lancées dans le label Église verte, ça montait tout doucement. On est aujourd'hui à une vingtaine de communautés qui est engagée dans le label Église verte au bout de 5 ans, 6 ans.
Et puis, alors, vous parlez de la fresque du climat, par exemple. Alors ça, sûrement que certains auditeurs, auditrices connaissent, mais pas tout le monde. Qu'est-ce que c'est la fresque du climat et puis pourquoi et comment elle est arrivée dans ce que vous êtes mis à faire ?
Donc la fresque du climat, c'est un serious game, comme disent les Anglais, donc un jeu sérieux qui a été créé par un professeur du climat, un climatologue, qui voulait enseigner à ses élèves le rapport du GIEC. Et il ne savait pas comment prendre ce truc qui fait quelques milliers de pages. Et il a co-inventé avec ses élèves un jeu de cartes qui doivent être mis en relation les unes avec les autres. Donc il y a une quarantaine de cartes qui chacune porte un texte, un fait du style « le climat se réchauffe », du style « les rivières débordent », du style « nos voitures brûlent du carbone », etc., etc. Et le but du jeu est que les participants mettent les cartes en relation les unes avec les autres dans le sens des causes vers les effets. Une fois qu'on a fait tout ça, on voit que la cause principale du réchauffement climatique, parce que le réchauffement est une carte centrale, bien sûr, dans ce jeu. La cause principale sont les activités humaines, et c'est, d'après le GIEC, absolument indiscutable, et que les conséquences vont sur le climat et vont ensuite sur les activités humaines et vont ensuite sur les relations humaines et vont ensuite sur des choses comme les famines, les migrants, etc.
Qu'est-ce que cet outil permet ? Parce qu'en fait, ce que vous dites là, c'est quelque chose qu'on peut aussi découvrir en lisant, par exemple.
Alors cet outil, il permet de faire travailler un groupe ensemble. Il fait appel à l'intelligence collective. L'animateur ne fait que présenter les cartes et éventuellement corriger quelques erreurs. Donc ça permet aux gens de s'imbiber, d'apprendre vite, d'apprendre en profondeur toutes ces relations de cause à effet. Quand on s'arrête là, on en sort, on est complètement plombé. De voir, voilà les causes, voilà les conséquences. Bon. Donc il y a une deuxième partie dans cet atelier fresque du climat, la deuxième moitié de cet atelier fresque du climat est justement la gestion de ces émotions, puis la mise en mouvement vers une recherche de solutions. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'il est possible de faire ? Et là, il y a donc des outils dans cette phase qu'ils appellent le débriefing, mais qui dure une heure, qui est une phase de mise en mouvement pour aller recréer de l'espérance. Voilà, ça c'est un outil complètement laïque et qui est super.
Qui emploie le mot espérance comme vous venez de le faire ?
Non. Il emploie le mot mise en action. Et cet outil, quand on l'utilise dans un contexte chrétien, on a d'ailleurs travaillé avec un certain nombre de mes collègues référents à l'écologie intégrale sur l'enrobage de cet outil. On l'utilise tel que cet outil, mais on le présente au début et puis on vient en fin de phase de débriefing rajouter quelques mots d'espérance chrétienne pour montrer la cohérence avec finalement Laudato Si et le GIEC. Cet outil-là, on l'utilise en contexte chrétien de façon à sensibiliser les paroissiens sur la nécessité de bouger, parce que ça l'est peut-être moins maintenant, Mais il y a encore 3 ou 4 ans, c'était pas évident. Les gens n'avaient pas forcément conscience de ce qui allait se passer. Il faut bien voir que depuis 18 mois, en gros, les médias parlent beaucoup du réchauffement climatique, des causes, des conséquences, etc. Il n'y a plus trop de doutes. Mais c'est très récent.
Témoin quand la foi se raconte.
Comme beaucoup de référents à l'écologie des diocèses, Olivier Bouillet utilise souvent la fresque du climat comme outil pour sensibiliser les chrétiens à la nécessité de bouger, comme il dit. Et pour lui, la mise en action proposée dans la deuxième partie de ce Serious Game correspond à l'espérance chrétienne. Il décrypte cela en évoquant les derniers grands textes écologiques et sociaux du pape François.
Là, il faut aller sur la fin de Laudato Si, il faut aller sur Fratelli Tutti, ou bien sur Laudate Deum, qui est un coup de pied derrière que le pape nous a renvoyé il y a quelques mois, Laudate Deum, en disant « mais vous n'avez toujours pas compris, les gars, quoi, il faut aller plus vite que ça, parce que c'est grave ». C'est bien de voir que tout ce mécanisme qu'on voit a pour origine, ce que je disais tout à l'heure, il a pour origine les activités humaines. Et les activités humaines, si elles ne sont pas faites dans un état d'esprit de connaître les conséquences de leurs actes, si on n'est pas capable de savoir que à chaque fois qu'on prend sa voiture, on brûle du CO2 et ça va amener du réchauffement climatique, il faut qu'on le sache ça, non pas pour ne plus jamais prendre sa voiture, mais pour ne la prendre qu'à bon escient. C'est important de connaître ce mécanisme pour après ça pouvoir ajuster notre comportement et connaître l'impact que ça a, le réchauffement, non pas sur nous, parce qu'on est quand même dans des régions assez privilégiées, ou même sur nos enfants, mais sur le reste du monde. Encore qu'on est dans des régions privilégiées, je pense que les inondations, ça a touché récemment, pas très loin du nord de la France. Et pas que le delta du Gange au Bangladesh. Ces outils-là servent, pour moi, c'est un premier ressort d'information, mobilisation. Et bien sûr, il faut l'accompagner en disant, mais voyez, même le pape nous le dit, et attention à bien prendre en compte le ressort spirituel qu'il y a derrière nos actions. On l'a un peu oublié. On a des actions où on abuse, comme je disais. On est prédateur des ressources. On s'en rend même plus compte parce que notre société industrielle est tellement structurée que quand on va acheter un truc sur Amazon, on mesure pas toute la chaîne qu'il y a derrière. Alors maintenant, on le sait, ok. Mais où quand on va acheter quelque chose dont on n'a pas vraiment besoin, on mesure pas que c'est de l'exploitation de tonnes de matériaux pour avoir les métaux rares qu'il faut, etc., etc. Donc là, ça, il faut qu'on le sache. Et donc ces outils-là, qui ne sont pas religieux, le savent. Et ensuite, il faut qu'on sache faire le lien avec notre mission de savoir s'occuper de nos frères et d'aimer nos frères. Et la mission de d'amour du prochain, quand je change mon téléphone portable et que je viens encore envoyer des enfants au Congo dans des mines illégales, c'est pas très cohérent tout ça.
Tout à l'heure, vous parliez d'espérance, et si j'ai bien compris, vous disiez que la traduction laïque de l'espérance, ça serait la mise en action. Est-ce que l'espérance chrétienne, c'est seulement la mise en action, ou est-ce qu'il y a autre chose quand vous dites, vous, espérance ?
Je vous dirais, je ne sais plus qui a dit ça, parce que je ne suis pas un grand théologien, mais agis comme si tout dépend de toi et prie comme si tout dépendait de Dieu, hein. Et je crois qu'il y a ça dans mon action pour l'écologie ou dans l'action écologique, c'est que il faut le faire avec l'espoir que ça servira à quelque chose, même si la cause peut paraître désespérée de temps en temps. Et il faut aussi avoir l'espoir que Dieu agit encore aujourd'hui. Je ne sais pas comment, parce que son intelligence est bien plus grande que la mienne, mais Dieu agit encore aujourd'hui et il saura trouver le moyen d'envoyer l'esprit sur les hommes pour nous aider à non pas continuer comme avant, mais à ce que la vie continue comme il le souhaite.
Qui il est en fait, Dieu, pour vous ? Quelle est votre foi ?
Je suis un ingénieur, donc un scientifique. Donc toute la partie scientifique de mon être me fait dire, C'est pas logique tout ça. Mais toute la partie scientifique de mon être me fait dire aussi le hasard, c'est pas non plus une solution. Donc, je suis pas à l'aise, mais je comprends pas. Et je sais qu'il y a plus grand que moi. C'est pas possible autrement. Ma foi, elle est pleine de doutes, hein, tout le temps. Hein. Mais il y a plus grand que moi. Je suis pas là par hasard. Ça, scientifiquement, j'en suis convaincu. Donc, j'ai décidé de croire.
Et croire en Dieu et au Dieu de Jésus-Christ en particulier, quoi.
Oui, de croire en Dieu, au Dieu de Jésus-Christ, parce que j'ai baigné là-dedans depuis que je suis tout petit, et j'ai plus de raison de ne pas croire, tout simplement.
Et le Christ, alors, pour vous ?
Ben, comme je vous disais, il est venu sur Terre pour compléter le message, et pour, je vais dire, donner une preuve scientifique par sa résurrection, oui, parce que les gens de son époque ont dû y croire. Et pour aller nous remettre dans le droit chemin et surtout nous délivrer ce message d'amour.
Une preuve scientifique, vous dites ?
Ah ben, les gens qui ont assisté à sa résurrection, ils ont dû être scotchés quand même, non ? Donc, à l'époque, c'était une preuve scientifique. Non, mais maintenant, je sais bien, le débat science, que la science puisse prouver l'existence de Dieu, non, elle pourra pas le prouver. Jamais, mais elle pourra jamais prouver le contraire non plus, j'en suis convaincu. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de croire. C'est peut-être plus confortable en plus.
Ça change la vie ?
Oui, parce que ça donne l'espérance.
Quelle serait pour vous l'étape importante à venir dans le développement de l'écologie chrétienne, si on peut dire ça comme ça ?
Que les chrétiens comprennent vraiment, enfin les chrétiens, je parle pour la France et pour nos diocèses, comprennent vraiment tout le mal que fait leur style de vie actuel sur les autres, sur leurs frères. Et là, ce jour-là, il y aura un changement qui sera joyeux, parce que on n'est quand même pas bien quand on fait du mal, au fond de soi. Et là, actuellement, on fait du mal, comme je disais, on est des prédateurs sans le savoir. Mon objectif, ce serait d'être des prédateurs en pleine conscience. C'est-à-dire de savoir, parce qu'il n'y a pas le choix, on doit utiliser les ressources de la planète, mais de savoir quel est l'impact que ça a. Et du coup, eh ben de le faire oui, en pleine conscience, donc en raison, en le modulant, en étant bien conscient de tout l'impact que ça a sur nos frères.
Mais vous avez parlé de joie, l'écologie c'est un chemin de joie ?
Il faut qu'on trouve un moyen que ce soit un chemin de joie, sinon ce serait trop triste. Mais oui, ça peut paraître dur. Certains autour de moi disent, finalement, c'était quand même mieux quand on n'était pas au courant, quoi. On se posait pas de questions, on avançait, on avait l'avenir radieux devant nous du progrès technique et de toujours plus, etc. Puis on se rend compte que ça nous emmène dans le mur. Donc, faut arriver à avoir des joies simples. Quand je suis venu ce matin ici, j'étais sur mon vélo, entre la gare et ce centre ici, et j'entendais les oiseaux du printemps, et j'ai dit bonjour les petits oiseaux. Et puis j'étais content. Alors, ça peut vous paraître simpliste, mais... Bonjour les petits oiseaux, vous êtes là, ils chantaient. En plus, on sent bien que c'est les chants du printemps. Mais de savoir les apprécier et de me dire, bon allez, ok, je vais faire ce qu'il faut dans mon style de vie pour que vous disparaissiez pas. Parce que c'est trop chouette que vous soyez là.
Merci à Olivier Bouillet pour son témoignage. Côté musique, vous avez entendu 2050-2100 par Trio, Alain Souchon, Pierre Souchon et Ours, et une version instrumentale de Seuls et vaincus de Gaël Faye.